À l'origine, les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue, habitant le territoire Anishinaabe, sont un peuple nomade au vaste territoire sans frontières. Pourtant, leur territoire se voit réduit comme une peau de chagrin. Confinés dans des enclaves réelles et parfois imaginaires, dans un territoire qui n'a rien à voir avec celui de leurs ancêtres, il s'agit de comprendre leur passé pour essayer de saisir l'avenir. C'est pourquoi la question du nomadisme, du territoire et de l'identité algonquine s'inscrit surtout dans leur rapport au territoire et à la nature. Jacques Vabanonik est un jeune autochtone issu de la communauté algonquine qui incarne à lui seul les misères et les grandeurs de ce peuple tiraillé entre un passé tragique et un avenir prometteur. Pour les Algonquins, les gardiens de la mémoire du clan étant les petits-enfants, Jacques se sent honoré de préserver le passé de ses grands-parents qui lui ont transmis le savoir-vivre ancestral, mais aussi leur propre traumatisme, en passant par la violence, l'alcoolisme et le douloureux souvenir des pensionnats. Si la mémoire des gènes est une notion bien connue par la science, il n'y a rien d'étonnant si Jacques lui aussi avait été pris dans la spirale des violences et des dépendances. Mais la foi en un avenir plus lumineux l'a poussé à se prendre en main et à servir d'exemple aux jeunes générations. Sauf que la haine de soi et des autres n'étant jamais très loin, Jacques ressent périodiquement le besoin de tout larguer et de commencer une nouvelle vie loin de la communauté. Tiraillé entre le désir d'aider les siens et de se construire une nouvelle identité, Jacques passe sa vie entre fuir et revenir, haïr et aimer, souder et dissoudre. Mon nom est Mayan Basique. Aujourd'hui, Jacques nous raconte ce que veut dire se sentir exilé sur son propre territoire. Tu te souviens comment tout a commencé?
Ben, je me souviens plus que j'avais fait une sortie en forêt avec Adèle. Mm-hmm. Adèle m'avait... Ben, j'avais rencontré mon histoire à Adèle. C'est mon histoire, mon parcours de vie. Puis elle même m'avait parlé qu'il y aurait peut-être un de ses anciens professeurs qui serait intéressé à faire des capsules ou des vidéos.
Qui serait intéressé à te connaître, à connaître ton histoire.
Connaître mon histoire.
Ouais. Mais notre histoire, tu te souviens, tout est parti en fait de la question d'exil.
Ouais.
Alors moi, je t'ai raconté mon histoire, je t'ai dit que je suis une exilée, que j'ai connu tout ce que l'exil veut dire, le parcours des clandestins, la guerre. Je t'ai parlé de comment les gens vivent entourés des barbelés, des camps de concentration, c'est quoi perdre son pays, c'est quoi se retrouver réfugié, clandestin, exilé. Et ce qui m'a frappé, c'est que tu m'as dit, oui, toi, tu as connu l'exil, tu es venu t'enraciner ici, mais moi, je me sens exilé sur mon propre territoire. Et ça, pour moi, c'était le point de départ de toute ma réflexion, en fait, autour des autochtones. Ouais. Tu te souviens?
Je m'en souviens, ouais.
C'est quand même frappant qu'au Canada, toi et des autres nations autochtones ou des peuples autochtones se sentent exilés sur leur propre territoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Mais exilé dans son propre territoire, tu sais, c'est parce que moi, j'ai mes ancêtres qui ont vécu sur ce territoire-là avant. Le Canada au complet nous appartenait en tant qu'Autochtones. C'est à l'arrivée de l'homme blanc dans les années 1400. C'est là qu'on a commencé à perdre nos terrains, nos territoires graduellement. C'est là que le gouvernement a commencé à s'implanter sur les territoires autochtones. Fait que moi, je me sentais exilé sur mon propre territoire. Je suis pas bien dans tout ça. Là. C'est mon territoire ancestral, c'est le territoire autochtone ancestral dans le fond. On n'a même pas le droit d'avoir une parcelle de terre à notre nom sans que le gouvernement nous mette des bâtons dans les roues.
Mm-hmm. Et ce territoire, tu m'as raconté que tes ancêtres, ils étaient là bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Là, tu parles de 1400, mais... Si on regarde l'histoire, on nous raconte que, on sait maintenant qu'il y a eu la traversée de détroit de Bering et que apparemment les premières traces des autochtones sur les territoires nord-américains, ça date d'il y a 10 000 ans.
Ouais, il y a 10 000 ans. Ouais. parce que nous autres, on vivait en harmonie avec la nature, tu sais. Ça fait des centaines de milliers d'années qu'on vit ici, là, puis on est encore là, là, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport aux Autochtones, tu sais, dans toute l'Amérique du Nord au complet, puis l'Amérique du Sud aussi. Tu sais. Mm-hmm. On s'est fait déposséder de nos terres, on s'est fait emprisonner dans des communautés, on s'est fait sortir des terres pour se mettre dans... pour qu'on reste dans la communauté.
Tu m'as dit l'autre jour qu'aujourd'hui, on utilise le mot communauté, mais avant, on disait réserve, sauf que c'est plus de mise de dire ce mot-là.
Non, parce que c'est... le mot réserve, c'est comme des animaux qu'on met en cache. Tu sais, c'est une réserve, justement, tu sais, pour...
Vous êtes comme confiné dans un territoire qui vous a été assigné par le gouvernement.
Oui, si tu verrais... La grosseur du territoire que ma communauté, en ce moment, tu sais, Lac-Simon, la grosseur du territoire que le fédéral nous a désigné, tu sais, est tellement petit que c'est juste ça qu'on a, c'est juste ça qu'on a comme territoire.
Qui vous a été assigné, dans lequel vous pouvez opérer. Et...
Oui, dans lequel on peut opérer, dans quel où est-ce que le gouvernement provincial n'a pas de pouvoir.
Mm-hmm.
Mais le terrain est tellement petit que ça ne marcherait même pas de subvenir à tous nos besoins si le gouvernement fédéral ne nous envoyerait pas de l'argent chaque année.
Tu veux dire, avant, le territoire était beaucoup plus grand et c'était une culture qui était nomade. Vous vous déplaciez d'un endroit à l'autre pour faire la chasse, pour faire la pêche, pour survivre dans la nature, pour vivre. C'est ça,
ouais.
La précision, c'était pas survivre, c'était pour vivre.
Oui, on vivait de la nature. On vivait avec la nature, en harmonie avec la nature. Fait que, t'sais, le terrain était vaste. Fait que chaque famille avait une parcelle de terrain qui pouvait exploiter, qui pouvait vivre de chaque saison. T'sais. À chaque saison, on déménageait de place. T'sais, l'hiver, on restait à un endroit où il y avait des montagnes, où il y avait du gibier, un peu de cours d'eau, du bois sec, tout ce qui peut nous favoriser la vie en hiver. L'été, on voyageait par les voies maritimes au printemps, tu sais, toute l'alimentation changeait aussi. L'hiver, on mangeait des plus petits gibiers comme le lièvre. On s'en allait à la chasse aussi avec les groupes familiaux qui restaient à proximité. Tu sais, on s'en allait à la chasse à l'Orignal parce que l'Orignal, la chasse, c'est comme... En ce moment, c'est il y a une croûte de neige sur la neige qui se forme.
Mm-hmm.
Fait que le déplacement de l'Orignal, c'est plus difficile pour l'Orignal de se déplacer dans cette croûte de neige-là. Puis pour nous autres, en tant qu'Anishinaabe, en tant qu'Autochtones, on pouvait marcher en raquette par-dessus cette couche de neige-là. Fait qu'aller à la chasse à l'Orignal, c'était vraiment le best là, pour un autochtone là, pendant la fin de l'hiver. Là.
Donc, ce que tu me racontes, il y avait une espèce de liberté de circulation dans un immense territoire qui était le vôtre. Puis là arrive la fameuse loi sur les Indiens.
Ouais.
Qui dit quoi? Alors, raconte-moi un petit peu.
La fameuse loi sur les Indiens. D'après ce qui est marqué dans la loi, c'est qu'on est considéré comme des enfants aux yeux de la loi. Le pourquoi qu'on est exempté de payer les taxes fédéraux provinciaux. D'après la loi, les enfants n'ont pas le droit de payer les taxes. C'est pour ça qu'on ne paye pas les taxes, nous autres, en tant qu'Autochtones. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment le territoire qu'on a perdu aussi. Tu sais, on a perdu tellement...
C'était comme un piège, en fait.
C'est exactement un piège. C'est pas nous autres qu'on a signé ça, c'est le gouvernement fédéral qui a signé ça.
Ça, c'est tout de suite après la création du Canada, de la Confédération canadienne. Il y a eu la loi sur les Indiens, parce qu'il fallait régler la question des Indiens. Donc, ils ont mis sur place cette loi, et la loi dit que tous les Indiens du territoire canadien sont dépendants du gouvernement.
Du gouvernement fédéral.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette dépendance? Ça veut dire qu'ils créent quoi? D'après ce que j'ai compris, il y a le ministère des Affaires indiennes.
Il y a le ministère des Affaires indiennes qui éjecte de l'argent... aux communautés autochtones à travers le Canada.
Et à travers un conseil de bande, c'est ça?
À travers un conseil de bande. C'est le conseil de bande qui sont conformés à la loi sur les Indiens par rapport aux dépenses qu'il faut qu'ils fassent dans l'année. Tu sais, il faut qu'ils dépensent tout l'argent que le gouvernement fédéral l'envoie à chaque année.
Donc, c'est, pour mieux comprendre, ils ont créé un conseil qui a été créé par le gouvernement canadien. Donc, chaque communauté a son propre conseil. Et les élus, en fait, du conseil, c'est qui les choisit? C'est les Autochtones ou...
Ça, c'est la communauté qui choisit les élus.
Et donc, ces élus sont en communication avec le gouvernement fédéral. Donc, ils doivent rendre des comptes.
Ils doivent rendre des comptes à chaque année. Tu sais, au mois de février, il faut que les comptes soient tous comptabilisés pour pouvoir donner les comptes au gouvernement.
Mm-hmm.
Pour qu'eux autres puissent vérifier que tout
les
l'argent...
Les rapports et l'argent étaient...
Tout l'argent a été dépensé. On ne peut pas mettre d'argent de côté, nous autres, en tant qu'Autochtones, dans une communauté, tu sais. Il faut dépenser tout l'argent au complet que l'argent que le gouvernement nous envoie. Sinon, on a des coupures sur le budget de l'année d'après.
Mais toi, tu me disais que tu aurais voulu ne pas être dépendant ni des conseils des bandes, ni de cette loi-là. Parce qu'en fait, idéalement, ça serait que vous soyez comme tout le monde.
Idéalement, j'aurais aimé ça être comme tout le monde.
Ne pas avoir à dépendre.
Ne pas avoir à dépendre du système gouvernemental établi par le gouvernement fédéral et provincial en ce moment.
Mm-hmm.
Ce qui est dur pour un Autochtone de vivre dans un système comme ça. Tu sais, moi, en tant qu'Autochtone, j'ai vécu dans une communauté, puis c'est dur de vivre en communauté. Là, tu
sais. En fait, la loi vous oblige à vivre en communauté.
La loi nous oblige à vivre en communauté. On ne paye pas nos taxes quand on vit en communauté. Mais aussitôt qu'on sort de la communauté, tu sais, on trouve une job à l'extérieur, mais on paye les taxes. Mais on est quand même remboursé une partie des taxes qu'on paye, justement, tu sais, quand même. Le gouvernement nous oblige à vivre dans la communauté si on ne veut pas payer les taxes par rapport à l'employeur.
Est-ce que c'est pour ça que la plupart des gens restent dans une communauté?
Moi, personnellement, je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour moi. Moi, je suis déménagé beaucoup de fois de la communauté. Tu sais, j'ai retourné en communauté, j'ai ressorti. Là, je viens de ressortir encore, ça doit faire pas loin de 10 mois que j'ai ressorti de d'une communauté parce que je n'étais plus capable de vivre là aussi. Là. Puis en même temps, avec la COVID, je trouvais que je me sentais enfermé, de plus en plus enfermé par rapport à la COVID. Puis je me suis ouvert les yeux, c'est par rapport au gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement y a implanté avec le temps. Il nous a implanté, tu sais, de rester
dans un territoire
confiné,
dans lequel, tu disais au début, tu te sens comme exilé, alors que tu aurais voulu avoir accès au vrai territoire qui était le vôtre au départ, là, qui était immense.
Ben, au départ, tu sais, les réserves créées par le gouvernement, c'est des prisons à ciel ouvert, dans le fond. C'est vraiment conçu pour qu'on s'entrechicane entre nous autres, c'est dans une communauté, pour qu'on règle nos problèmes entre nous autres, le temps que le gouvernement il fait des...
Le temps qu'il s'approprie.
Oui, c'est ça.
C'est le reste du territoire.
C'est exactement ça qu'il y a eu aussi avec le temps. Le reste du territoire, c'est se fait approprier par le gouvernement, mais ça, nous autres, on ne le voyait pas. T'sais, d'après aussi toutes les histoires que j'ai entendues quand j'étais jeune, ou que j'entends encore des fois aujourd'hui, partagées par les aînés ou bien par mon père.
Qui raconte qu'il y a comme une espèce de piège ou de trocage entre on vous donne la possibilité de ne pas payer les taxes, on scolarise vos enfants, mais en contrepartie, on prend indirectement, on vous dépossède en fait.
Oui, ben, il nous a dépossédé complètement de notre propre temps, ce qui était un coup fatal pour les peuples autochtones.
Si ce n'est juste du côté nomade, là, dont tu parlais. Là, vous ne pouviez plus vraiment vous déplacer comme avant.
Non, parce qu'il nous a tout enfermés. Il nous a enfermés dans une communauté, justement. T'sais, après ça, ils sont venus chercher les enfants pour les amener au pensionnat.
Ça, c'est vrai, j'aimerais vraiment que tu m'en parles.
Ça a été un déchirement pour... pour les femmes, les hommes, les aînés dans la communauté.
Donc, juste pour comprendre, il y a eu la construction des communautés, et ensuite les pensionnats, c'était à l'extérieur de la communauté. On prenait donc les enfants qui appartenaient à la communauté pour les amener dans les pensionnats, pour soi-disant les éduquer. Et ensuite, ils revenaient en pensionnat avec quoi ? Avec une autre identité, avec...
Ils revenaient du pensionnat, je dirais qu'ils revenaient avec beaucoup de trauma.
Mais la question que je voulais te poser, est-ce que tout le monde était obligé de passer par les pensionnats ?
Tout le monde était obligé de passer par les pensionnats. C'était une loi fédérale qui a été appliquée.
Donc tous les enfants d'une communauté, à un certain moment, devaient quitter la communauté pour aller dans un pensionnat.
Pour aller dans un pensionnat, c'est ça.
Pour soi-disant recevoir l'éducation.
Pour recevoir l'éducation, mais dans la loi des Indiens, c'est marqué exactement, c'est pour enlever l'Indien chez l'enfant. C'est pour carrément couper les liens de la nature et les liens d'appartenance de l'enfant par rapport à sa culture, pour pouvoir l'assimiler.
Donc, est-ce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit de parler?
Ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Ils se sont fait couper les cheveux en rentrant. Tu sais, des enfants de 6 ans qui ont les cheveux jusqu'aux fesses.
Mm-hmm.
Puis ils se font mettre les cheveux en coupe champignon rendu au pensionnat. Mm-hmm. C'est atroce là, pour un enfant là, de se faire couper les cheveux. Là. C'est comme perdre une partie de son identité pour un enfant.
Donc, pas droit de parler la langue. Puis donc, une fois qu'il rentrait du pensionnat, il parlait comment avec ses parents qui sont restés sur place?
Il parlait français. Mais les parents ne parlaient pas nécessairement français. C'est pas tous les parents qui parlaient français. La plupart des parents parlaient leur langue maternelle, qui était l'algonquin, qui était l'autochtone en général. Soit l'algonquin, le tchikamek,
ou autre langue
mm-hmm. autochtone. Fait que le jeune, en 10 mois... Il avait oublié une partie de sa langue, mais il avait appris le français. C'est tout ce qu'on lui apprenait, rendu au pensionnat.
Là, il rentrait, et là, en fait, déjà le premier problème, ce que tu disais, problème intergénérationnel, il commence là, parce qu'il n'y avait plus de moyen de communiquer.
Non, il n'y avait plus de moyen de communication. Ça, c'est un des problèmes intergénérationnels qui s'est passé aussi, en partant, comme tu dis. Après ça... Tu sais, pendant que les jeunes, ils se faisaient amener à l'école, là, hein, j'ai entendu parler dans les histoires là, qu'il y avait les oblats, là, les prêtres,
mm-hmm.
qui s'occupaient des... C'est parce que le gouvernement fédéral a pris soin de mettre une église catholique dans chaque communauté autochtone, justement pour gérer les parents par l'église catholique, puis gérer les enfants au pensionnat par l'église catholique. Fait qu'automatiquement, c'était l'Église qui avait la responsabilité
de pallier au problème qui est déjà causé par l'arrivée du blanc au départ.
Mm-hmm. Fait que c'est l'Église catholique qui a contribué à la destruction aussi de mentalité, d'une culture autochtone.
Et de la spiritualité aussi.
La spiritualité revient tranquillement chez les autochtones de plus en plus.
Il y a une réappropriation de la culture autochtone.
Yeah. Mm. Fait que les jeunes au pensionnat, ils ont eu beaucoup de civisme. Mais ils ont eu aussi beaucoup de fun, ils s'amusaient.
C'était pas que noir.
C'était pas juste noir. Là. Ce que mes grands-parents me rencontraient, là. C'était pas juste du noir. Là. Mon grand-père me disait, sans le savoir, le gouvernement m'a éduqué à combattre son propre système.
Comment?
En apprenant à lire et à écrire
son
langage.
L'éducation, oui.
L'éducation, aujourd'hui, l'éducation qu'il a reçue au pensionnat, mon grand-père, il a servi à combattre le propre système gouvernemental.
Mm-hmm.
Parce que, en essayant d'assimiler les jeunes, puis aussi, en même temps, en recevant des civismes, tu sais, des agressions, des coups de règle, tu sais, toutes les atrocités qui s'est passé.
Et qu'on commence à découvrir de plus en plus.
De plus en plus avec le temps, avec du monde qui parle aujourd'hui, mais qui ont su aussi pardonner. qui ont su aussi se pardonner avec le temps. C'est ça qui est arrivé. Mais mon grand-père, il me dit toujours, il me disait tout le temps, tu sais, c'est grâce à eux autres que je suis capable de lire et écrire aujourd'hui. C'est grâce à eux autres que j'ai pu développer une entreprise. C'est grâce à eux autres que...
Mm-hmm.
Il a su se pardonner par rapport à ce qu'il a subi ou qu'est-ce qu'il a fait subir lui aussi avec le temps à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais il a vécu beaucoup dans l'alcool, dans la colère lui aussi pendant un bon bout de temps, ce qui a engendré de la colère chez les parents, mm-hmm. chez les enfants des jeunes qui ont été au pensionnat.
Qui ont été arrachés en fait mm-hmm. à leur famille. Ouais, tu dirais pas plutôt que c'est une extraordinaire force de résiliation?
Oui, c'est une extraordinaire force. Hein. Tu sais, c'est fort, là. Tu sais, l'être humain, il a été conçu justement, tu sais, pour braver des montagnes,
mm-hmm.
pour monter des montagnes, puis se pousser à fond tous les jours.
Mm-hmm.
C'est exactement ça, la résilience autochtone. On se donne à fond, pareil, encore, malgré toutes les souffrances que mon peuple a subies mm-hmm. pendant toutes ces années-là,
mm-hmm.
pendant ces centaines d'années-là. Malgré tout, on se tient debout encore mm-hmm. pareil.
Et de plus en plus, ce que tu disais, surtout ta génération.
Mm-hmm. Ma génération, ils se tiennent encore de plus en plus debout. Il y a beaucoup de monde, tu sais, il y a les générations inférieures.
Ah, antérieures.
Ultérieures. C'est les générations plus vieux que moi. Les autres, il y a moins de monde qui se sont levés. Mais c'est ce monde-là qui fait notre force aujourd'hui.
Mm-hmm.
C'est eux autres qui nous montrent c'est quoi la voie à suivre pour mieux se rétablir, nous autres, en tant mm-hmm. que... Parce que les autres, ils ont réussi à se rétablir tranquillement avec le temps. Mais c'est avec le temps que nous autres aussi, on va réussir à se rétablir, puis à réussir à monter, puis à gravir les montagnes, mmh. comme nous autres y ont fait, malgré tous
les obstacles.
Les obstacles de la vie.
Puis est-ce que tu penses que la loi sur les Indiens, ça va changer un jour?
Moi, j'espère que ça va changer un jour. Il faut que ça change, parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps de même. Tu sais. Puis le gouvernement fédéral, il ne peut pas toujours gagner, mais... C'est le but premier d'un gouvernement, c'est de gagner sur sa population.
Mm.
C'est d'avoir le dernier mot sur sa population. Mais un jour, là, c'est la population qui va avoir le dernier mot. Puis ce jour-là, il peut encore arriver.
Mm.
Quand ce jour-là va arriver, c'est que tous les peuples, en tant qu'Autochtones, Allochtones, toutes les races de la Terre vont finir par se dire qu'on est en train de détruire notre propre mm-hmm. Terre. On détruit la terre qu'on a empruntée à nos enfants.
Mm.
On emprunte la
terre. La planète, de façon générale, elle va très mal en ce moment. Ça, on le sait, là. Grosse crise environnementale partout.
Ben partout, tu sais. En même temps, je me dis, il y a la COVID qui est arrivée. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant la COVID, mm-hmm. pendant que
nous autres... Comme une prise de conscience.
Ouais. Mm. Tu sais, nous autres... En tant que citoyen, on s'est fait enfermer dans nos résidences, dans nos maisons.
C'était comme un double confinement,
deux fois confiné. Tu sais, déjà qu'on était confinés, nous autres, en tant qu'Autochtones dans la communauté, on a quand même nos droits et libertés, là, c'est ça qu'on avait, là, mais à cause de la COVID, puis les normes de la santé, tu sais, les droits et libertés, ça a comme été bafoué puis mis de côté. Fait que automatiquement, c'est tout le monde là, qui a été...
Mm.
Fait qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui se sont faites pendant ces temps-là. Il y a beaucoup de monde qui ont pensé à l'environnement, à tout ce que l'homme est en train de faire, détruire son propre environnement. Mm. Tu sais, c'est pas nous autres qui va subir les conséquences de ça, ça va être les générations à venir.
Ça, c'est sûr. Je pense qu'on va tous, collectivement, se sentir tous exilés sur une planète au complet, qui n'a plus rien à nous fournir parce qu'on a tout épuisé. Mais toi, t'as pas fait les pensionnats. Donc
non, ça, moi, j'ai pas fait les pensionnats. J'ai mes grands-parents qui ont fait les pensionnats. Mes parents n'ont pas fait les pensionnants non plus. Mais maman, il a passé par le service des services sociaux. Ça aussi, c'était un autre déchirement qui a passé dans ma famille. c'est un autre déracinement, mais c'est comme la suite du pensionnat, de la DPJ. C'est la suite du pensionnat. Tu sais, il disait que le seul son qu'on attendait après le passage de l'autobus qui venait chercher les enfants pour les emmener au pensionnat, le seul son qu'on attendait, c'était les femmes pleurer.
Puis les chiens aboyer.
C'est tout ce qu'on attendait. Les hommes aussi étaient tristes de ne plus avoir leurs enfants auprès des autres. Ça a été tout un déchirement.
Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un problème intergénérationnel au départ. Et tu disais aussi que la seule façon de combler ce vide causé par en fait, le fait que les enfants étaient arrachés, c'est par l'alcool. Mais ouais, d'où venait l'alcool?
L'alcool venait des oblats qui étaient là. Il y avait de l'alcool à l'église. Fait que l'alcool, il venait directement de l'église. Ce qui ces autres qui alimentaient
la peine.
Ouais,
la douleur.
Ces autres qui venaient essayer de régler la douleur que leur système
a causé.
D'après les histoires que moi j'ai entendues, c'est le prêtre qui donnait à boire
aux parents qui étaient en deuil, en quelque sorte.
Qui étaient en deuil de la part de leur enfant qui était parti en pensionnat. Puis j'imagine que le prêtre disait que c'était pour leur avenir, pour qu'il y ait un meilleur avenir plus tard. T'sais. Déjà que nous autres, on était bien dans la nature. On vivait de la nature. On survivait. On survivait pas dans la nature, on vivait. Ouais. Fait que ça a été ça dans la communauté pendant les 2-3 premiers mois, mettons, jusqu'en temps que les hommes ils piquent des crises et qu'ils boivent trop. Ça a engendré de la violence dans la communauté après. Parce que les hommes, ils pétaient les plombs, ils buvaient trop. Puis, mais il fallait qu'ils travaillent à cette heure pour trouver. Parce que là, il n'y avait plus de point de repère.
Oui, si tu arraches les enfants, c'est comme si tout le cercle de la vie il était déboussolé. Et puis, parlant justement des cercles de la vie, tu m'expliquais que dans la vision autochtone, il y a le fameux cercle de la médecine.
Oui, on a le fameux cercle de la médecine. T'sais, dans le cercle de la médecine, on a l'enfance qui dépend. Tu as les 4 points cardinaux, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Mais du nord à l'est, c'est l'enfant. C'est l'enfance. C'est de 0 à 12 ans, à peu près. C'est là que tu apprends à grandir. C'est là que les parents s'occupent de toi pour t'en prendre les bonnes choses de la vie. Après, tu arrives à l'adolescence qui va durer jusqu'à peu près une vingtaine d'années, de 12 à 20 ans environ. C'est là que c'est comme si le grand-parent prenait en charge après la responsabilité d'éduquer l'enfant avec la collaboration du parent ensemble. Puis en même temps, tu es rendu dans cet âge-là, il faut que tu apprennes à t'occuper de tes petits frères aussi. Il faut que tu apprennes à t'occuper de ton aîné, t'occuper de tes parents, les tâches ménagères.
C'est pour ça qu'on appelle ça la roue.
Ouais. Fait que tout le monde travaillait ensemble en harmonie dans la famille. Après, tu arrivais à l'âge adulte où il fallait que tu partes pour aller chercher une femme dans une autre communauté. Puis que tu restais un bout de temps là-bas, ou soit tu restais pour la vie, ou soit tu revenais avec ta femme dans ta communauté. Fait qu'on prenait nos femmes à l'extérieur pour les ramener ou rester là-bas. Fait que là, c'est là aussi que tu arrives ou que tu découvres d'autres choses dans ta vie. Tu découvres. Là, tu reviens, tu arrives avec des enfants. Il faut que tu apprennes à vivre avec un enfant, il faut que tu apprennes à apprendre de l'aîné.
Parce que chacun avait sa place.
Chacun avait sa place, chacun avait son devoir dans la famille. La femme avait son rôle, le jeune avait son rôle, l'enfant, l'adolescent.
Du coup, si on arrache l'enfant, tout tombe dans l'eau.
Tout
là.
Tombe dans l'eau. Il n'y a plus de structure. Il y a les fondations. C'est comme si tu enlèverais les fondations d'une maison.
Mm-hmm.
La maison, il restera plus stable.
Ouais.
C'est exactement ça qui est arrivé avec les enfants.
Mais tu sais, il y a tellement de stéréotypes quand on entend, on connaît très mal finalement toute l'histoire des Autochtones de façon générale, mais on entend tellement de stéréotypes où on dit mais ils sont pris en charge, ils ne payent pas de taxes, le gouvernement leur donne tout. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que tu m'as expliqué, c'est qu'une fois qu'on a débalancé ce cercle, cette structure qui était basée sur la famille, ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Ça, pallier ce problème intergénérationnel, selon toi, va prendre combien de temps?
Ça peut prendre encore 2 à 3 générations avant d'être vraiment être sur le bord de la guérison. Parce que l'individu tel quel en ce moment, il travaille sur soi-même, sur son identité, sur ce que l'on a perdu avec le temps. Ça a pris 3 générations à partir du pensionnat pour arriver là où je suis aujourd'hui.
C'est quand la date de la fermeture des pensionnats? Dans les années 70, non?
Le dernier pensionnat qui a fermé, c'était en 96 au Canada.
Au Canada?
Au Canada.
Et au Lac-Simon?
Au Lac-Simon, le pensionnat, je pense qu'il a fermé, je dirais, dans les années 70 environ. Début 70, je pense, environ, que le dernier pensionnat est fermé au Lac-Simon. Mais, même encore là, il y avait une école. Il y avait une école publique au Lac-Simon. Ben, une école pour les jeunes du Lac-Simon. Mais il y avait la communauté voisine qui n'avait pas d'école. Fait qu'ils autres, ils vivaient en résidence à Levico. Puis c'était les bonnes soeurs qui étaient là pour s'occuper d'eux autres, mais... C'était radical leur affaire là aussi, là, ça de là, là. D'après des histoires que j'ai entendues là, c'était pas mal radical là.
Ah ouais.
C'était pas... Oui, c'était le fun. J'imagine que c'était le fun de vivre avec des amis de son âge, de sa communauté. Mais si tu faisais une gaffe là, tu le payais. Mm. Tu payais cher là, ta gaffe là. J'ai entendu parler qu'il y avait comme un genre de sous-sol là, dans cette maison-là, puis c'était comme une trappe. Mais quand quelqu'un ne respectait pas les règles, mais il se faisait envoyer dans ce petit sous-sol-là, dans le noir. Ça, c'est une des histoires que j'ai entendu parler par rapport à ça. Ça moi, je ne peux pas nécessairement le confirmer, ça, mais c'est une histoire que...
Toi, tu es en colère?
Aujourd'hui, non, mais j'ai déjà été en colère par rapport à ça. Aujourd'hui, j'essaie de travailler ma colère par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout ce que mon père a pu subir pendant toutes ces années-là, parce que je peux comprendre le mal qu'ils ont vécu, puis tout. Mais vu que je ne l'ai pas nécessairement vécu, je peux pas être en colère pour quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais mon père a vécu, oui. Puis qu'on vit encore aujourd'hui. Il y avait mon ami, tu sais, j'ai un ami en ce moment. J'ai un ami, puis... Il n'est pas autochtone. Son chum est autochtone. Il me rencontrait qu'il s'en allait dans le bois. Il s'en allait dans le bois avec son chum pour aller marcher en raquette. Là, il me dit, je sais pas comment tes ancêtres te faisaient, Jacques. Comment ça, de quoi tu parles? Mais d'aller marcher dans le bois dans 4 pieds de neige. Puis moi, ben, là, je suis là en train de répondre, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? C'est parce que j'étais marché dans le bois avec mon chum. On a marché peut-être 300 mètres, j'étais brûlé, là. On calait jusqu'aux hanches, là. On marchait dans 4 pieds de neige. Moi, je suis là, je suis parti aller, j'étais crampé, là. Je riais. Puis là, je dis, tu sais, mes ancêtres n'étaient pas si cons que ça, là. Les autres, les trajets qu'ils empruntaient, là, hein, c'était des trajets déjà tapis la veille, Puis, et c'était tous des chemins entretenus depuis des années. Là. Fait que,
personne ne prenait des raquettes.
Non, ça prenait des raquettes, oui, mais tu, ça dépendait de l'épaisseur de neige qu'il y avait dans son trajet. Mon grand-père m'a élevé de même. Il m'a dit, Jacques, tant que tu as de l'argent en banque, là, hein, puis que tu es capable de te payer un steak, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Pas besoin d'aller chercher dans la nature. Là. Si tu as envie de manger un bon lièvre, là, hein, ben là, tu vas mettre des collets, puis tu manges ton lièvre. Puis là, tu prends juste ce que tu as besoin. Ils n'ont pas pour remplir ton congélateur au complet. Ouais. Parce que tu as de l'argent en banque, tu peux aller t'acheter ce que tu veux à l'épicerie.
C'est ce que tu fais?
C'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas à chasse. Je suis capable de la chasse, je suis capable de l'attrape. J'ai tout appris ça quand j'étais jeune. Puis j'ai encore toutes ces qualités-là. J'ai le sens du partage quand je tue de quoi. J'ai toutes les bonnes qualités que la vie m'a apportées. Des enseignements que les aînés, mes parents, puis les amis m'ont enseigné avec le temps. J'ai tout ça encore, mais j'ai aussi mes défauts, comme la plupart du monde d'ailleurs.
Tout à fait. C'est humain, c'est normal. Ouais.